depuis que je suis venu ici, dans cette porte ici, chez les amis de rue, j'ai senti qu'on ne vexe pas les personnes, je veux dire. Il y a Madame Catherine, Cindy, Wagner, Laura, et Monsieur Christian, le médecin, et quelques bénévoles que je tiens à remercier après, quand vous terminez le reportage, parce que ces gens-là, sans eux, ils laissent leur temps, ils laissent leur famille pour nous. La dernière fois, j'avais besoin d'avoir une veste, j'avais froid dans la rue, elle m'a donné une veste, vous voyez ce que je veux dire? J'avais besoin des chaussettes. On n'a pas besoin de voler une paire de chaussettes dans un supermarché. On peut demander et on peut être habillé, vous voyez ce que je veux dire? Et là, depuis que je suis dans cette... Depuis combien? 4 mois je suis ici, plus?
Oui, à peu près.
4 mois je suis ici, j'avais pas de psychologue, j'avais pas de psychiatre. Je galérais parce que j'avais la maladie TOC. Le TOC, c'est pas fou, c'est que quand vous êtes dans la rue, vous comprenez, ballotté à droite, à gauche, vous êtes squatté, le huissier vient. Et moi, quand j'ai un problème, je viens direct. C'est un lieu en sécurité où je me sens absolument. Voyez, c'est très très dur. Voilà, c'est très très dur. Des fois, j'ai dit peut-être ils vont m'enlever de la tente, je me trouve dans la. Voilà. Et la dernière fois, j'avais besoin d'une couverture. Et c'était une crise de couverture au niveau de 115. Des fois, des crises au niveau de couverture. Et madame Catherine, elle m'a donné une couverture. Et ce jour-là, ça m'a échauffé parce qu'il faisait très froid. J'ai dormi dans le gymnase aussi. Pendant 10 jours. Parce que cette semaine, j'ai un petit problème. Je vais l'attendre, je la ferme. Parce que j'ai entendu un bruit. Je dis peut-être ils vont brûler la tente. Peut-être. Parce qu'il y a Saint-Étienne, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, il y a des nazis. Il y a des nazis, vous connaissez les nazis. Ils ont attrapé quelqu'un, algérien comme moi, couteau.
Enfin, moi, le nombre de dossiers de demande d'aide juridictionnelle que je fais pour des OQTF, je fais au moins, par permanence, je fais au moins 2 dossiers par permanence, donc ça veut dire 6-7 dossiers par semaine pour des demandes d'avocats et de recours dans le cadre d'une OQTF. Donc, depuis janvier, je trouve que vraiment, ça, c'est énorme. Et puis la deuxième chose dont les gens se plaignent beaucoup en ce moment, c'est les vols, qui avaient quand même beaucoup moins avant. En fait, les gens qui dormaient sur une chaise ou à la gare ou qui s'endormaient quelque part, ils étaient moins vandalisés. Mais là, maintenant, ils ont un sac, on leur pique le sac, on les déshabille.
Et moi, mon rêve, vous savez, c'est quoi? Mon rêve, c'est de travailler. Mon rêve, c'est d'aider des personnes aveugles, d'accompagner des... Je sais que je n'ai pas de papier, je n'ai pas le droit, mais c'est pas grave. Je vous le dis malgré ça. J'aimerais accompagner des vieux dans la poussette et nettoyer les couches. Ce n'est pas pour les papiers. Je le fais ça du cœur parce que j'aime...
Les gens.
Voilà, j'aime. C'est ça. J'aime bien travailler. Parce que j'ai travaillé en black, on m'a arnaqué. Je travaille de 6h du matin jusqu'à 6h de l'après-midi, on m'a donné 25 euros. Et à la fin, comme il m'a payé, comme un chien, il m'a pas donné l'argent dans la main. Il m'a dit comme ça. Je trouve tout ce que je cherche. Parce que je sais quand des fois, quand je suis en galère, quand je pleure, quand je me sens déprimé, quand je sens que des fois je ne pleure assez dans cette vie, vous avez vécu la rue, des fois on pense, c'est pas nous sommes fous, mais tu
vois. C'est humain.
Moi j'ai fait un jour un dessin, un animal et un être humain. La psychologue de l'association Alice, elle m'a dit pourquoi vous avez dessiné un animal et un être humain. Je dis un animal, il vit dans la nature, il est oublié. L'être humain, il vit dans un trottoir, dans une tente, il est oublié. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au niveau de service des gènes, heureusement qu'une association, elle m'a donné un paquet de lingettes.
C'est extraordinaire.
Mais
c'est...
du coup, t'as pas répondu à ma question. Comment est-ce que tu as connu les amis de la rue?
Ouais, je vous réponds tout de suite. Désolé pour je vous interromps.
Non, mais il n'y a pas de mal.
J'ai connu les amis de la rue parce qu'il y a des personnes qui sont venues ici, qui m'ont dit que ici, tu te sens bien et tu peux prendre une douche parce que j'étais manque de douche. Et j'avais presque un jour, je n'ai pas pris ma douche. Et là, je suis venu pour... Je me suis retrouvé bien ici, c'est pour ça qu'on m'a transmis. J'ai des psychologues qui m'écoutent, j'ai des médecins généralistes, M. Christian, j'ai Cindy, et j'ai Wagner, toute cette famille-là, Laura et tout. Je sens parce que des fois je perds espoir, c'est dur parce que vous avez vécu la rue, mais je m'encourage à moi-même, vous voyez ce que je veux dire? Je m'encourage, mais en même temps, la plupart du temps, eux qui m'ont aidé jusqu'à la dernière goutte de ma vie, vous savez, avant que je connaisse les associations, je ne mangeais pas. Vous savez qu'est-ce que je buvais, monsieur? L'eau des toilettes. Vous connaissez les toilettes? En bas, dehors, il y a de l'eau. Et quand j'étais dans la rue, dans le jardin, je ne connaissais pas ces endroits-là. Et j'avais besoin d'avoir un morceau de pain. J'avais même pas la carte blanche, secours populaire. L'armée de salut. J'avais rien, je vous jure, j'avais rien. Et je galère. Ma propre vie, mon titre, je l'ai déjà donné. le titre de mon théâtre, il s'appelle « Ma vie en réel ». Et là, je suis en train de... Parce que quand quelqu'un vit une réalité, il peut sortir dans un théâtre. Et... Moi, j'aime le théâtre et j'aime le violon. Ouais. Ça, c'est... Je ne pourrais pas trouver...
Il y a quelques années, un atelier d'écriture, parce qu'on avait participé, il y avait un festival à Villeurbanne, et du coup, en lien avec le conseil de quartier, ils avaient délocalisé des interventions théâtrales dans des lieux, et donc on avait fait un atelier d'écriture, et il y avait eu une mini-représentation ici. Depuis, on n'a pas eu l'opportunité de le refaire. Ici, on n'a pas tellement d'activités. On a des temps festifs qui rythment l'année en plus des temps d'accueil collectif. Donc, si on va de janvier à décembre, on a la Chandeleur. Après, on a le concours de domino demain.
Ah oui, c'est bien, il y a un concours de domino.
Au mois de juin, on fait la fête de l'été pour marquer le changement de fonctionnement, enfin de passer à un rythme d'été. Fin août, après, on a un concours de boule avec un pique-nique. Et puis en fin d'année, on a la fête de fin d'année. Donc on a des temps comme ça festifs sur l'année. On a des ateliers des ateliers collectifs pour certaines démarches, mais on n'a pas d'ateliers créatifs au sein de l'accueil de jour. Comme on a limité la jauge d'accueil à 25 personnes, on privilégie la mise à l'abri, le fait de pouvoir se reposer, être au calme. Alors c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte que les gens puissent jouer au domino. Il y a quelques années, c'était le Scrabble. Enfin, il y a des périodes, des modes qui changent. Mais on essaye de plus favoriser ce temps-là et cet espace-là, un espace d'accueil, de tranquillité, de bien-être pour les bénéficiaires, avec la collation et puis la mise à l'abri en journée. Et c'est vrai qu'en dehors des temps, de ces temps d'accueil collectif, c'est plus tourné vers l'accompagnement social et le courrier. Donc on essaye depuis le Covid, on a dissocié vraiment les temps d'accueil et on ne veut pas surcharger non plus l'espace d'accueil pour que les gens aient vraiment la salle est grande mais elle n'est pas excessive non plus. Donc on veut pouvoir aussi laisser l'espace de tranquillité et de bien-être. Peut-être qu'il y aurait des activités qui pourraient être mises, mais pour nous, enfin... En tout cas, pour moi, c'est important qu'il y ait cet espace aussi de tranquillité, de repos.
Fête de Noël, Catherine nous a fait une fête, ils nous ont donné des cadeaux, et ils nous ont fait même la musique arabe, le raï, et les gens, ils ont dansé.
On a plein de talents, ce Catherine. Elle chante le raï aussi.
Non, mais bien sûr, elle chante le raï. Mais je vous jure, on a fait le raï, on a dansé avec les assistances. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est ma deuxième famille. Ça veut dire, eux, ils font plus... en dehors de leur famille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui font leur service dans d'autres établissements. C'est juste service. Après, merci, au revoir. Vous voyez? Mais ici, ils donnent plus que leur service. Parce que là, ils donnent un esprit fort. C'est pour ça qu'on danse la fête, les cadeaux. On a fait la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? La récolte de Noël.
C'est difficile pour les gens quand on est en attente d'un hébergement et qu'on nous dit... tous les 6 mois, il faut solliciter la maison de la veille sociale. Les gens ont l'impression d'être oubliés, d'être perdus un peu. Donc moi, ce que je dis aux gens, c'est de venir me voir à peu près toutes les 6 à 8 semaines. Et sur la maison de la veille sociale, je mets une note, je mets ne serait-ce qu'une note ou un élément. Parce que je pense que c'est important pour la personne qui est en situation de précarité de savoir qu'à un moment donné, on prend en compte aussi sa demande et qu'on on met une alerte. Ça veut dire qu'il n'est pas oublié et je pense que pour les personnes, c'est important. Oui, peut-être que c'est une pesanteur administrative à la NVS parce qu'il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de... Mais je pense que c'est important aussi pour position de service de première nécessité qui facilite le quotidien des personnes à la rue ou en tout cas en situation de précarité. Donc on a un certain nombre de services de première nécessité, mais je pense que ce qui va et qui est important, c'est la bagagerie. pour un certain nombre de personnes, avoir un service de bagagerie. Alors, je le faisais sous le manteau, je me suis fait taper sur les doigts. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que je voudrais mettre en complément sur le lieu d'accueil. Là, il y a bagage rue, mais ce que je trouve qui est important, si on veut que les gens se reconstruisent et qu'ils arrivent à mettre en place des choses, il faut qu'on arrête l'itinérance. L'itinérance de la satisfaction des besoins. Comment voulez-vous que les gens remettent en place des choses s'il faut qu'ils pensent que là, je dors, là, je me douche, là, je mange, là, je vois l'assistante sociale, là, je récupère mes affaires, là, je fais ça, là, je... Tout leur quotidien est rythmé par des là, 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 voilà. Que si on arrive, je ne dis pas qu'on va offrir à tout le monde la totalité des services, mais si pour une partie d'entre eux, les plus précaires ou les plus fragiles, ou ceux qui ont un vrai lien avec la structure, on arrive à les recentrer sur un lieu en répondant aux différents besoins, on va pouvoir les aider à passer à une autre étape, qui, on va les sortir de la nécessité de soi. Donc, c'est un peu plus périphérique, mais on a mis en place la permanence coiffure. Donc là, c'est pas, on considère que ce n'est pas un service de première nécessité comme la douche ou la collation. Et donc, on s'en sert aussi pour travailler autre chose, notamment le fait que tout n'est pas gratuit. C'est important aussi, des fois, de travailler ça. Et donc, on demande une participation symbolique de 50 centimes.
Et là, quand je suis dehors, ben, je trouve qu'une nouvelle famille aussi, que Catherine, ce qu'elle me plaît, quelque chose qu'elle me encourage, je tiens à me dire, quand elle dit « Yalla, Yalla, Yalla », sans dire ça, et c'est fini. Ça, ça, ça me plaît, elle me dit avec...
Une dizaine d'années, peut-être même plus, j'ai eu l'idée de... Parce qu'on fait partie de la collecte de la banque alimentaire, enfin, travailler avec la banque alimentaire, et je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas une collecte de sous-vêtements? Donc on a mis en place sur le marché de Noël de Villeurbanne une fois par an une collecte de sous-vêtements avec un stand de collecte. Et il y a quelques années, je ne sais plus combien maintenant, bah avant le Covid, c'est marrant, ça te fait, nous fait une vraie date de référence cette histoire, on animait l'espace de collecte et avec ma collègue on s'est fait mais incendier, mais insulté comme je croyais pas que c'était possible, en nous disant que on devait avoir honte de ce qu'on faisait, qu'on humiliait les gens, que les gens avaient besoin d'un toit, que ça n'avait pas besoin de sous-vêtements, enfin vraiment on s'est fait pourrir. J'ai pas la langue dans ma poche, mais ce jour-là on s'est vraiment retrouvé.
Quel endroit?
C'est quoi l'endroit? Et donc avec ma collègue on s'est dit qui mieux que nous pour expliquer ce qu'on fait et le besoin qu'on a de ça, pourquoi on fait cette collecte, que des bénéficiaires. Et à partir de ce moment-là, on a associé les bénéficiaires à ce temps de collecte pour venir animer le stand.
Et, c'est génial.
Et c'est un moment extraordinaire.
Oui.
Déjà parce qu'eux peuvent répondre et expliquer ce que représentent les amis de la rue pour eux, expliquer pourquoi on fait ça. Et ils sont aussi porteurs de ça, parce qu'après, sur le lieu d'accueil, quand on donne les sous-vêtements, ils peuvent dire aussi, mais on les a collectés, ces sous-vêtements, oui, oui. Voilà.
Tout à fait.
Voilà. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place les petits-déj, parce que moi, quand on est devenu Habitat et Humanisme, la première fois que j'ai rencontré le DG, il m'a dit, qu'est-ce que tu voudrais travailler, qu'est-ce que tu voudrais voir comme... comme projet, et moi je lui dis, bah, les personnes qui sont à la rue, sont à la rue tous les jours et pas du lundi au vendredi aux horaires bureaux. Donc je savais qu'en hiver, la péniche était ouverte le dimanche, la semaine est couverte par l'ensemble des accueils de jour, mais le samedi, il n'y avait rien. Donc j'ai proposé qu'on ouvre le samedi matin pour les petits-déj. Donc depuis 3 ans, on a mis en place. Moi, je trouve que l'accueil de jour, alors L'accueil de jour au sens accueil de jour, mise en place, mise à disposition de services de première nécessité, c'est bien, c'est une réalité, on aide les gens à se reconstruire, mais après. Après, parce que après, quand les gens, bah, on leur a trouvé un logement, ils sont dans leur logement, et machin, et après on leur dit droit commun. Sauf que droit commun, quand on vient de ce monde-là, c'est compliqué de gérer des rendez-vous, c'est compliqué de gérer l'angoisse d'attendre d'avoir un rendez-vous pour un courrier qu'on a reçu et qu'on ne comprend pas bien, ou qu'on se dit c'est quoi, qu'est-ce qu'ils me veulent, machin, machin. Et puis, et des fois, il y en a qui reperdent pied et qui retombent. Et moi, je trouve que l'accueil de jour, ça doit être aussi une main courante, une rampe d'escalier. Dans le sens où j'ai quitté l'accueil de jour, j'ai accès au droit commun, mais si à un moment donné je trébuche et je ne me sens pas bien et que je n'ai pas la réponse, j'ai l'opportunité de retourner dans ce lieu repère. Mmh. Où on va me donner une ébauche de réponse, où on va me rassurer, où on va m'aider à faire une démarche, et je vais pouvoir continuer mon chemin, où je vais pouvoir y retourner, et ça ne sera pas systématiquement une fin de non-recevoir. Alors des fois, la fin de non-recevoir, c'est aussi pousser les gens vers la sortie, et dire là, il faut vraiment qu'ils s'envolent, mais c'est important aussi de leur laisser l'opportunité. Et puis il y a une autre chose que je trouve qui est difficile quand on est à la rue ou quand on est en situation de précarité. Nous, on a notre vie, on a notre fonctionnement, on a notre histoire, on a nos faiblesses et nos fêlures, mais on n'est pas obligé, pour avoir accès à quelque chose, de se déshabiller psychologiquement à chaque fois qu'on va voir quelqu'un et de raconter toute sa vie pour avoir un sandwich, pour avoir quelque chose, pour avoir machin. Sauf que quand on est en situation de précarité, eh ben, y a un peu cette obligation-là. Chaque fois que je vais voir un lieu, un accueil social, un travailleur social, il faut que je raconte toute ma vie. Alors des fois, on a des histoires stéréotypées. Hein. Avec le temps, on finit par le repérer aussi. Mais ça se comprend aussi. Donc moi, je comprends aussi qu'il y ait des gens qui me disent « Catherine, ça fait 20 ans que tu me connais, tu connais toute ma vie, j'ai pas envie d'aller raconter mon histoire à quelqu'un d'autre. C'est bon, je viens, toi ou les amis de la rue, mais vous connaissez mon histoire, et je préfère venir là parce que j'ai pas besoin de re-raconter. » Et je pense que cette liberté-là aussi, des personnes, il faut en tenir compte.
Tout à fait.